Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour cet épisode un peu spécial, pas d'invité, mais seulement un moment en tête à tête, vous et moi, chers auditeurs. En effet, nous allons bientôt fêter les 5 ans du podcast. Le premier épisode a été publié le 14 février 2019 avec Émile, comment oublier Émile ? Et depuis, plus de 80 rencontres avec des hommes qui ont partagé leur parcours, leur intimité et leur sexualité à mon micro et à vos oreilles. Pour cet épisode, j'avais envie de vous partager plusieurs réflexions que j'ai pu avoir en 5 ans de rencontres. Comme vous vous en doutez, ces échanges dépassent les épisodes que vous découvrez le jour de leur diffusion. Je prends du temps de partage avec chaque homme que je rencontre, avant l'enregistrement et bien sûr après la diffusion. Nous sommes régulièrement d'accord, parfois pas du tout. Souvent, ils nourrissent ma réflexion et à chaque fois, la discussion va au-delà de la simple sexualité de mon invité. Ils me parlent de leur vie maritale, si c'est le cas, de leur enfant, de leur traumatisme, de certains secrets même qu'ils me confient, des soucis de santé parfois, de leurs parents, de leur travail. Bref, ces échanges sont riches et me touchent toujours. Il arrive que le lien perdure et je reçois de très belles annonces au fil des mois et années, comme la naissance d'un enfant, un mariage à venir ou des projets d'achat immobilier réalisés. Parfois, mes invités m'annoncent aussi leur rupture, leur divorce et me partagent leur peine. Bref, au-delà d'un numéro d'épisode et d'un prénom qui est souvent d'emprunt, je sais que c'est une question que vous vous posez souvent, il y a des histoires de vie derrière qui ne me quittent pas et avec lesquelles j'avance depuis 5 ans. Certaines m'ont bouleversée évidemment, d'autres ont fait écho à mon histoire personnelle et ce n'est jamais anodin et je ne peux vraiment pas oublier ces moments de vie partagés. Donc merci, merci à eux. Une leçon, s'il fallait que j'en retienne qu'une seule, parce qu'on me demande souvent ce que j'en retiens, c'est que tous les hommes qui ont parlé à mon micro n'avaient jamais eu l'occasion de se raconter aisément, avec douceur, dans un cadre dit « sécure » et avec bienveillance, en tout cas j'essaie, je leur ai donné la possibilité de se raconter et ils y sont arrivés. Donc attention, je ne suis pas en train d'émettre un jugement, de plaindre qui que ce soit ou de faire des poncifs, les hommes ne parlent pas, les hommes ne savent pas parler, etc. Je constate juste de mon expérience. Alors évidemment, tout n'est pas linéaire. Il y a eu des propos problématiques qui ont pu heurter certains et certaines d'entre vous. Je le comprends très bien. Je reçois régulièrement des DM sur Instagram de mécontentement. J'essaie d'y répondre et que l'échange soit sain, en tout cas respectueux, même si derrière les écrans, je ne vous cache pas que beaucoup de gens ne prennent pas de gants. Mais pas sûr que dans la vraie vie, on aurait le même niveau d'intensité dans le débat. Mais bon, ça, ce n'est pas vraiment le sujet. Il est important pour moi de rappeler, et j'en profite là, que ce podcast est ouvert à toutes les paroles masculines et que le concept vraiment d'On The Verge repose sur la pluralité des discours, des pratiques et des vécus. Après 5 ans de podcast, désormais, moi j'ai pensé à ce projet en 2018, fin 2018, et j'ai enregistré avec Émile de mémoire en septembre-octobre 2018 et avec d'autres invités sur cet automne hiver là, et j'ai commencé à diffuser en début 2019, donc ça fait quand même un petit bout de temps que ce podcast vit avec moi. Moi je me sens aujourd'hui assez en confiance et disponible pour recueillir des paroles encore plus clivantes. Évidemment ce sera la minorité des épisodes, mais je souhaite vraiment pouvoir donner la parole à des hommes qui ont des sexualités dites problématiques ou des fantasmes, expérimentations qu'on va qualifier de borderline. Alors bien sûr, les choses seront cadrées. S'il faut avoir un expert à mes côtés ce jour-là, ce sera le cas. Mais je trouve que c'est important, vraiment, de donner ces paroles-là qui sont rares. Sachez-le, je n'improviserai pas sur un terrain que je ne maîtrise pas. C'est une des leçons que la vie m'a apprises et je l'ai adoptée depuis. Comme le thème de ce podcast, c'est la sexualité masculine, au-delà des histoires de vie qui vous sont partagées tous les 15 jours, je souhaitais moi aussi vous parler de certaines observations et réflexions sur le sujet de On The Verge. En 5 ans, j'ai complètement revu mon jugement, évidemment, sur beaucoup d'idées préconçues que moi, femme, cis, hétéro, privilégiée, blanche, née au milieu des années 80, j'avais et qui, justement, aujourd'hui, ne sont plus ou en tout cas ont évolué. Alors, il y a vraiment plein de sujets que j'aimerais aborder avec vous. Beaucoup de choses à dire, évidemment, parce que au-delà des rencontres, au-delà des épisodes, je me fais une forme de religion, de lire beaucoup d'informations, que ce soit médicales, psychologiques, neuropsychologiques, sur la sexualité, la sexologie. Je lis aussi des nouvelles, des fantasmes érotiques pour essayer de comprendre le male gaze, le female gaze. Enfin, je me renseigne beaucoup sur tout ça pour avoir, en tout cas, un niveau d'information assez nourri pour avoir des échanges construits et ouvrir encore plus ma pensée, mes idées sur le sujet. Donc il y a vraiment deux sujets, il y a vraiment deux sujets que je souhaitais vous partager dans ce mini épisode. Donc le premier sujet, c'est le rapport au porno, et le deuxième sujet, juste après, le rapport au corps masculin, évidemment. Donc commençons par le rapport au porno. Je lis beaucoup d'articles sur le sujet. Pour certains, vous avez lu le livre que j'ai écrit aux éditions Robert Laffont, j'ouvre la préface sur ce sujet-là. Je trouve qu'il est très important de le mettre en base, en fait, de pas mal de réflexions autour de la sexualité masculine. Récemment, il y a une étude IFOP qui est sortie, donc c'était en 2022, sur l'impact de la pornographie. Le sondage a été fait auprès de 3000 Français et Françaises. Donc il faut savoir que de nombreux Français estiment que les rapports intimes pâtissent du porno. 60% des hommes sondés de moins de 25 ans disent qu'eux, ils sont capables de différencier la porno et la réalité et qu'ils ne reproduisent pas ce type de pratique à la maison. Mais il y a quand même certaines croyances qui restent symptomatiques d'une banalisation, notamment la culture du viol, l'objectification des femmes et évidemment la reproduction d'actes sexuels violents et ou non consentis. On est loin vraiment d'un total respect du consentement. Il y a 22% des hommes qui admettent après avoir déjà effectué une pratique sexuelle sans prendre en compte le non consentement de leur partenaire. Je trouve ça assez intéressant de vous poser la question à vous-même, et pourquoi pas avec votre partenaire. Évidemment, loin de moi l'idée de vous culpabiliser sur le sujet, et bien sûr, mais ça peut être intéressant de s'interroger sur le sujet. 40% des hommes estiment qu'il est normal qu'en couple on fasse l'amour, donc c'est normal pour faire plaisir à son conjoint, même quand on n'en a pas vraiment envie. Donc je trouve que ça a une forme de résonance importante de penser qu'il y a une obligation, une injonction à faire l'amour quand on est en couple. 25% pensent que dans le feu de l'action, on n'est pas obligé de demander l'accord de sa partenaire avant de se lancer dans une nouvelle pratique sexuelle. Donc pareil, ça pose question de se dire que on a une personne sur quatre qui pense qu'il n'y a pas besoin de demander l'autorisation pour faire une pratique sexuelle avec laquelle on n'est pas forcément OK sur le moment, ou en tout cas on n'en a pas parlé. Cette étude, elle est basée, enfin en tout cas quand je l'ai lue, elle est basée sur la sexualité hétéro. J'en suis la première désolée, c'est très difficile de trouver des études en Europe qui portent sur la sexualité homo sans que ce soit dirigé sur les pratiques à risque ou sur des comportements dits border, donc j'en suis la première désolée. Là vraiment je vous retranscris cette étude qui a été faite visiblement que sur des couples hétéros. Parmi ceux qui ont une consommation précoce ou les grands amateurs de porno en ligne, les chiffres explosent. C'est 34% d'entre eux qui admettent ne pas toujours avoir respecté le consentement de leur partenaire à certaines pratiques, contre seulement 10% des hommes qui ne fréquenteraient pas les sites X. Donc on voit quand même que le porno engendre le reniement du consentement. Ça, c'est quand même assez problématique. Moi, ce qui m'a vraiment posé question, c'est que le nombre de jeunes initiés à la pornographie en ligne avant l'âge de 15 ans est passé de 30% il y a 10 ans à 57% aujourd'hui. Donc du coup, ça engendre des stats folles, de type 45% des hommes ayant vu un porno avant 11 ans. Avant 11 ans. Dire non, c'est comme dire oui pour ces hommes-là. Donc, ils ont été matrixés avec ces images de pornographiques. Et donc, une jeune femme qui dit non, en fait, c'est oui. Ainsi, on arrive à un chiffre qui est effrayant. 19% des hommes estiment qu'il n'est pas très grave de forcer sa partenaire à une position ou pratique sexuelle si, à la fin, elle obtient un orgasme. Ça, c'est ce que détaille l'étude. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu le cheminement, mais plus on voit de la pornographie tôt, à des âges où on n'est pas du tout censé voir de la pornographie, plus on a une vision de la sexualité qui est brutale, sans consentement, et qui va au-delà du respect de l'individu. On se retrouve donc avec des trucs aberrants. Par exemple, la première sodomie a été, pour plus de 4 femmes sur 10, donc 43%, un acte qu'elles ont soit été forcées de faire contre leur volonté, à 7%, soit qu'elles ont accepté de faire alors qu'elles ne le souhaitaient pas vraiment, 36%. Donc ces femmes, ces 4 femmes sur 10, ont vécu des expériences pénétration anale sans vraiment le désirer, le motiver, le vouloir. Et une autre croyance qui est assez inquiétante liée au plaisir féminin, 20% des sondés de cette étude croit que beaucoup de femmes prennent du plaisir à avoir mal lors d'un rapport sexuel. Donc on le note en mémo, s'il vous plaît. La douleur, c'est OK dans un rapport qui est consenti, BDSM par exemple, mais il faut que ce soit consenti. Alors, l'adhésion à ces postulats diffère en fonction de l'âge et du niveau d'études et de rémunération, bien sûr, mais elle est surtout plus élevée chez ceux qui ont consommé précocement du porno ou qui en consomment de manière régulière. Notez bien ça. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Pourquoi vous, chère auditrice, vous regardez du porno ? Il y a un autre sondage de l'IFOP que je voulais vous partager auprès des hommes. 17% des hommes français avouent en regarder un par semaine de films porno. Alors, à prendre évidemment avec des pincettes, car évidemment c'est du déclaratif. Hein. Il a été monitoré que 17 millions de Français majeurs se rendent au moins une fois par mois sur un site adulte et 3,8 millions s'y rendent même tous les jours. Donc si on fait quelques calculs, les petits produits en croix, tout ça, il manque quelques personnes à l'appel. Donc bon, peut-être que c'est plus que finalement 17% des hommes qui consomment du porno mensuellement. Alors, voici les réponses qui sont arrivées en tête hein, de ce sondage IFOP sur pourquoi vous consommez du porno. Donc, les réponses qui reviennent le plus, c'est « donc ça permet d'évacuer le stress ». Alors oui, en réponse à du stress quotidien, stimuler de la dopamine via une masturbation, ça provoque un shoot de plaisir, de bonheur immédiat, ça fait sens. Ça permet également de libérer les fantasmes. Alors, il y a fantasme et vrai désir. Le premier étant quelque chose qu'on veut garder à l'état de rêve, entre guillemets. Le second, c'est une idée qu'on souhaite mettre en pratique, le vrai désir. Ainsi, la pornographie, c'est un support génial pour laisser vivre les fantasmes les plus hard de façon safe. Moi, je rappelle à toute fin utile, aucun fantasme n'est tabou ni honteux. Tout dépend de ce que l'on en fait, à bon entendeur. Alors, est revenue aussi la réponse, pourquoi vous consommez du porno ? Certains hommes ont dit qu'ils ont une libido plus forte que la plupart de leurs femmes et que ça leur permet voilà, d'évacuer. Alors certes, c'est biologique, la testostérone engendre une libido plus intense chez les hommes. Sauf que cela ne veut en aucun cas dire que les femmes ont forcément moins de libido. Les cycles hormonaux jouent énormément sur ce sujet. Je ne suis pas experte et sachez-le, en observation, j'ai eu quand même pas mal d'invités qui m'ont dit que leur partenaire femme avait plus de libido qu'eux. Donc c'est quand même une idée assez préconçue de se dire que les hommes ont beaucoup plus de libido que les femmes. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que cela. Une autre réponse qui est ressortie, beaucoup de couples regardent du porno ensemble pour s'exciter. Et toujours d'après le sondage de l'IFOP, 55% des Français en couple auraient déjà regardé du porno. 43% de ces mêmes couples auraient même fait l'amour devant. Donc si ça peut être un booster de libido, un petit plus dans la vie intime, pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Le porno revient aussi comme une éventuelle source d'inspiration. D'après cette enquête, 47% des Français reconnaissent avoir déjà essayé de reproduire des scènes et des positions vues dans les films. Alors, important de vous rappeler que le porno, c'est du cinéma pour adultes. Ce sont des acteurs et actrices professionnels qui ont une maîtrise de leur corps et parties génitales que les gens dont ce n'est pas le métier n'ont pas. Les scènes sont scénarisées, sublimées par la magie du cinéma, que ce soit le maquillage, que ce soit les angles de vue, la lumière, la façon dont c'est tourné, etc. Ce n'est pas la vraie vie, on ne le répétera jamais assez. Alors aujourd'hui, il y a de nombreux débats hein, sur la place du porno dans notre société. Des productions indépendantes émergent et proposent un cinéma pour adultes éthique et qui correspond à des chartes précises portées par des professionnels du secteur du X et c'est top. Il y a des coordinateurs d'intimité qui font leur apparition sur les setups pour assurer des tournages safe et dans le consentement absolu. Il y a des changements vraiment vertueux dans l'industrie. Toutefois, moi, je ne peux que vous inviter à être très, très précautionneux avec vos enfants et adolescents, garçons et filles. L'accès du porno peut être traumatique. Et je vous le dis parce que j'ai vraiment eu beaucoup d'invités pour qui ça a été le cas. Ça a conditionné leur future sexualité pour certains. Ça a été traumatisant. Et 15 ans, 20 ans, 30 ans après, ils se rappellent de scènes qui ont pu les choquer à des moments très précis de leur jeune vie et en construction, on va dire, de leur sexualité. C'est vraiment pour ça que je vous ai partagé toutes ces études que j'ai lues. Moi, je pense que la porno est vertueuse et peut apporter vraiment des choses très positives dans sa construction avec soi-même, avec son couple, dans son épanouissement, etc. C'est un avis personnel, mais vraiment, comme tout, il faut le faire avec intelligence. Donc, vous savez comme moi, aujourd'hui, il est très facile de tomber sur des contenus érotiques, voire porno, seulement en consultant les réseaux sociaux. Moi, j'ai le souvenir d'une discussion avec une maman très alerte sur le sujet, coucou Pauline si tu passes par là, qui m'expliquait qu'une fois, sa fille dessinait tranquillement à côté d'elle un personnage de manga. Et sa fille a à ce moment-là à peine 10 ans. C'est donc sa petite fille cherche avec l'accord de sa maman qui est juste à côté d'elle la couleur exacte de la tenue du personnage sur Google. Bon, la petite sur le moment n'a rien dit de suite puisque quelques heures après, elle a confié à sa mère qu'en tapant dans la barre de recherche Google Images le nom du personnage de manga, elle est tombée sur une image, un gif, avec le dit personnage qui était mis en scène dans une scène porno. Alors heureusement que c'est une maman super à l'écoute qui a tout de suite eu la discussion avec sa petite fille, mais c'est un exemple concret que cela peut arriver très 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 vite au sein du foyer, même si on fait super attention, même si on est avec ses enfants tout le temps. Donc il faut être extrêmement vigilant. Ça, c'était le premier sujet que je voulais voir avec vous. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi et les auditeuristes qui sont sur le Discord, mais aussi en DM, par mail. Enfin voilà, je suis toujours très très contente d'échanger avec vous. Le deuxième point que je souhaitais aborder et qui me touche particulièrement, c'est la vulnérabilité et le rapport au corps masculin. Alors la vulnérabilité, qu'est-ce que c'est ? Chacun, chacune en a sa propre définition. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec mon ami Fabrice Florent, qui lui associe la vulnérabilité à l'authenticité. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Se montrer tel que nous sommes à l'autre, avouer ses parts d'ombre, ses faiblesses, même moi si j'aime pas trop ce terme, hein, faiblesse, exprimer ses désirs, même refoulés, et se mettre à nu de ses émotions, de son émotivité, de ses sentiments. C'est pas évident hein, d'exprimer son désir et son attachement, tout comme il est difficile de partager à l'autre ses doutes ou son manque de connexion, car au final, on a peur de quoi ? De blesser et ou d'être blessé. Le parallèle avec la sexualité masculine est assez symbolique. Pénétrer ou être pénétré, que ce soit dans l'acte propre ou dans le sentiment, laisser pénétrer l'autre dans son fondement, mais aussi dans son être, lui donner accès à ce que l'on a de plus personnel, intime voire tabou. Dans le coït, l'homme a pour mission d'endurer, de tenir la cadence, de pénétrer. Car, et à contrario, un homme ne doit pas trembler, gémir, soupirer, pourquoi pas pleurer et être pénétré. Mais pourquoi ? Pourquoi si peu de représentations de l'homme qui s'abandonne et ouvre les vannes de son émotion ? Vous l'aurez compris, il y a une vague de questionnements sur ce rapport à la vulnérabilité de l'homme qui me questionne beaucoup. Ces dernières années, hein, certains hommes ont entrepris une remise en question des héritages et des modèles, des valeurs que nos sociétés leur demandent d'épouser aveuglément. Ils ont longtemps été prisonniers, eux aussi, hein, d'un système qui leur a appris la conquête, l'ambition, le profit, la compétition, la puissance ou la performance. Alors je sais, hein, là, à ce moment-là très précis, que beaucoup de femmes féministes seront en contradiction sur ce point et c'est ok, venez, on en parle. Au-delà du sentiment, il y a aussi le corps. Ceux qui suivent le compte Instagram depuis le début se rappellent peut-être des stories du dimanche que je faisais, appelées les old dudes. Alors je partageais des corps masculins dénudés, sexy et sensuels. C'était une curation d'images que je mettais longtemps à trouver sur internet, car vraiment, trouver de la diversité des corps masculins, petits, grands, gros, minces, musclés ou pas, poilus, imberbes, racisés, porteurs de handicap, trans, cis, ce n'est pas chose aisée, sachez-le. C'est pas facile à dire, ce n'est pas chose aisée, sachez-le. Surtout il y a 4-5 ans. J'ai dû arrêter parce qu'Instagram a restreint de nombreuses fois mon compte jusqu'à me menacer de le suspendre, donc vraiment j'ai dû faire un choix. Mais je crois que vous les retrouvez sur le compte Instagram épinglé sur la page. Alors toujours est-il qu'il était difficile hein, de trouver des corps dénudés et sexy autres que des mecs au physique d'Apollon, souvent sur des comptes gays. Moi je me suis rendu compte à quel point la société n'apprend pas aux hommes à valoriser leur corps et leur sensualité. Alors, moi, j'ai pu envoyer des photos sexy de moi à mes partenaires, ouais. Et en échange, c'était toujours laborieux, timide, voire même négatif pour recevoir à mon tour un nude. Alors qu'il y a beaucoup de choses à proposer, pourtant. On a à peu près le même corps, la même surface de corps, avec des différences, certes, et c'est ça qui nous plaît, mais il y a de quoi faire. Donc les femmes, nous on est tellement habitués à valoriser nos attributs et entre guillemets notre beauté que c'est naturel de poser pour attiser le désir de sa partenaire. La société n'attend pas du tout la même chose d'un homme, surtout s'il est hétéro, encore plus s'il répond aux standards de la virilité. Vous l'imaginez, vous, cet homme posé devant son téléphone, se dénuder un peu, chercher le bon angle, la lumière, adopter une attitude sexy, un peu provocatrice et envoyer un nude pour partager son désir à sa partenaire ? Ça vous semble totalement incongru, j'imagine. Pourquoi ? À y réfléchir, moi je trouve que c'est une des choses les plus sexy dans la séduction. Moi perso, je suis team veine. Les avant-bras veineux, nus, un peu humides sortis de douche, bah c'est un grand oui en fait. Hein. Alors par contre, petit reminder, on n'oublie pas de demander le consentement quand on envoie un nude. Je dis ça, je dis rien. Pour terminer sur le sujet, sachez que j'ai dit à beaucoup de mes invités, moi, que j'ai trouvé beau en fin d'enregistrement. Et je le pense sincèrement. Beaucoup d'entre eux étaient très gênés d'ailleurs, car peu de femmes, m'ont-ils dit, leur avaient exprimé le fait qu'ils étaient beaux hors cadre de l'intime ou de la séduction. Ce n'est pas parce que leur trait physique me touche particulièrement, même si certains objectivement sont très beaux, mais parce qu'après avoir parlé de tant de choses, de l'intime, personnelle, forte, je trouve que ça agit moi comme un embellisseur. Les gens sont beaux à ce moment-là, je ne l'explique pas. Il y a cette connexion qui se passe avec mes invités 90% du temps qui fait que cet homme-là, qui a 18 ou 70 ans, qui est devant moi, quel que soit son physique, il est beau car il est vulnérable. Voilà ce que je souhaitais vous partager. J'espère que ce format, très différent de d'habitude, ne vous aura pas trop chamboulé. Je serais vraiment très heureuse que l'on s'en parle sur le Discord du podcast. Alors le Discord, hein, il y en a qui me demandent souvent en DM, c'est un genre de forum très facile d'accès. C'est une application que vous pouvez mettre sur le téléphone ou sur l'ordi. Je vous glisse hein, le lien d'accès dans les notes qui accompagnent le podcast. Et c'est très sympa parce qu'il y a plusieurs thèmes et plusieurs auditeurs et auditrices qui l'ont rejoint. Et comme ça, on peut échanger. Vous pouvez aussi évidemment m'envoyer un petit mail ou même venir sur les réseaux sociaux du podcast. Vous avez toutes les infos là en... dans la note qui accompagne ce petit épisode. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à y réfléchir, à le penser. C'est un exercice qui est un peu différent, mais je trouve ça assez sympa de vous l'avoir proposé. Je termine par vous remercier, évidemment, du fond du cœur pour votre fidélité, votre soutien et vos messages. Merci aussi à tous mes invités pour leur confiance. Comme je dis souvent, ce podcast, c'est un projet incroyable qui, moi, m'a amené à faire des rencontres folles, même écrire un livre. Mais sans mes invités et sans vous, bah, il n'en est rien. Donc merci. Alors bientôt, le 100e épisode de On The Verge et sachez qu'il sera célébré. C'est encore un peu tôt pour en parler parce que vraiment, je suis en train de travailler dessus, mais j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous dis donc à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.